Ubi tu Gaius, ego Gaia. Où tu seras Gaius, je serai Gaia. Formule rituelle d'un mariage romain.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Comme nombre de sociétés antiques, la société romaine a donné une place toute particulière à la cérémonie du mariage. En droit romain, on a distingué deux types de mariage. D'abord, le mariage cum manu, qui était finalement un mariage donnant la domination du mari clairement sur la femme. Et puis le mariage sine manu, dans lequel l'épouse n'était pas juridiquement soumise à son mari. Concernant le premier, qui tend à disparaître au cours du 5e siècle avant Jésus-Christ, il y avait plusieurs types, effectivement, de mariages où l'homme dominait clairement l'épouse. C'était donc une forme, finalement, relativement archaïque du mariage. Ce rite précisait que, finalement, il y avait une domination qui permettait quasiment d'acheter la jeune fille en présence de témoins. Cette procédure d'acquisition fictive, la coemptio, n'était plus guère pratiquée, à vrai dire, à la fin de la République. Il y avait aussi le mariage per usum, qui représentait une forme juridique de l'enlèvement. Là encore, ce régime tomba assez tôt en désuétude et ne fut plus qu'une curiosité juridique pour les légistes romains. À vrai dire, la vérité du mariage, à la fin de la République tout particulièrement et sous l'Empire, a été le mariage finalement par théorique consentement, qui était apparu dans la loi des 12 tables au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce régime, qui devait contribuer à l'émancipation d'une partie de la vie de la femme romaine, a accueilli sans doute des approbations moins avouables. En effet, on pense que ces mariages, qui étaient autorisés, étaient finalement un moyen de préciser que le père qui mariait sa fille avait toujours la possibilité de retirer à l'autorité de son gendre celle-ci pour une raison qui lui convenait. Ainsi, le système d'un mariage de libre consentement laissait l'hypothèse que le père de la mariée pouvait donc la retirer de l'autorité de son mari. Mais au-delà de cette tradition juridique, comment était organisée la cérémonie du mariage ? Les cérémonies étaient à peu près identiques, mais il faut préciser tout de suite qu'elles ne concernaient que la citoyenneté romaine. Seuls les citoyens avaient véritablement le droit de se marier. Les esclaves, par exemple, ne connaissaient dans leur couple qu'une espèce de cohabitation qui était autorisée, tolérée, la conturbationum. Ensuite, les pérégrins, c'est-à-dire les étrangers qui résidaient à Rome, n'avaient théoriquement pas la possibilité de s'unir avec une romaine. Mais revenons donc à la question de la cérémonie. Le jour du mariage, la fiancée, la sponsa, revêtait une tunique droite, la tunica recta. Ses cheveux étaient divisés en 6 tresses, ramenées autour de la tête. Le matin du mariage, les parents et les invités se réunissent dans la maison de la fiancée, qui porte un voile orangé sur la tête, le flammeum. Ensuite, en tout cas au début sans doute de l'histoire romaine, on offrait un sacrifice et on inspectait les entrailles de la victime pour voir si finalement les dieux étaient favorables à cet échange de consentement. Puis, les contrats de mariage avaient lieu devant témoins. Ensuite, les époux se donnaient leur consentement en se joignant les mains, ce qui est d'ailleurs souvent représenté dans les sculptures romaines. On appelait ensuite la bénédiction de 5 divinités. On priait Jupiter, garant des engagements, Juno, qui était la divinité du mariage, Vénus, bien sûr, la déesse de l'amour, Fides, qui était la divinité de la bonne foi, de la loyauté, puisque l'engagement du mariage demandait loyauté. et Diane, déesse de la maternité. Ensuite avait lieu la conferatio, c'est-à-dire que les époux offraient un gâteau d'épeautre à Jupiter. Voici donc le premier temps de la cérémonie. Mais il en restait un autre. Il fallait donc quitter le domicile de la fiancée, qui était souvent le domicile paternel, en feignant d'ailleurs de redouter ce départ, qui représentait finalement un arrachement pour la fiancée à sa famille. Les invités portaient ensuite les deux mariés en cortège joyeux, entonnant des chants, lançant toute forme de lazzie, de plaisanterie, chargé finalement d'égayer la cérémonie. Et c'est ainsi qu'on se dirigeait vers la maison du mari. Sur le seuil de la maison du marié, la mariée devait s'arrêter et ne pas toucher le seuil symboliquement. Son mari devait alors la prendre dans ses bras et lui faire passer la porte de sa future maison. Dans l'atrium, donc dans la cour intérieure, il lui présente l'eau et le feu, des éléments vitaux et symboliques, où elle prononce les paroles célèbres que vous avez entendu il y a quelques minutes, « Ubi tu Gaius, ego Gaia », »« Où tu seras Gaius, je serai Gaia ». À vrai dire, on a un peu perdu le sens primitif de cette formule, mais en tout cas, elle signifie bien la volonté finalement d'union et de vie commune entre les deux époux. Ensuite, la mariée offre trois pièces de monnaie. Une à son mari, la deuxième au dieu Lar, c'est-à-dire aux dieux familiaux de la famille de l'époux, de la famille dans laquelle elle va vivre. Et puis la troisième pièce est donnée au dieu du carrefour le plus proche. En effet, il y avait des petits dieux locaux qui étaient des dieux, si vous voulez, de quartier. Et donc, la troisième pièce était destinée à se gagner les faveurs de ces dieux de quartier. Les périodes pour le mariage étaient également assez précisées. Il y avait effectivement certaines périodes de l'année où les mariages étaient interdits. Quelles étaient ces périodes? Il y avait la période du 13 au 21 février, qui correspond aux fêtes des Lupercales. Les fêtes des Lupercales étaient une fête de la fécondité où des jeunes gens, assez dévêtus, parcouraient les rues de Rome avec des fouets faits de lanières de bœufs et frappaient les jeunes femmes qui le souhaitaient pour faciliter leur enfantement. Il y avait ensuite la saison du 1er au 15 mars et la saison du 1er mai au 15 juin, durant lesquelles il était interdit donc de célébrer des noces. À vrai dire, il était perdu cette se souvenir de ces interdictions. Il y avait sans doute des liens avec des temps de cérémonies de caractère funéraire ou de purification qui auraient contrarié le rite nuptial. Donc, vous l'avez compris, le mariage romain est extrêmement précis, son organisation est extrêmement précise elle-même. Est-ce à dire que derrière cette théorie, il n'y a pas, je dirais, des arrangements? Il est bien évident que les grandes familles romaines voyaient le mariage comme un élément d'alliance, comme un élément qui permettait finalement de permettre à des familles de regrouper leurs richesses ou de faire des alliances politiques. Ainsi, une fille de César avait été donnée à Pompée lorsqu'il y avait eu le premier triumvirat. On sait aussi que progressivement, à la fin de la République, et durant une bonne partie de l'Empire, il y avait une tradition aussi de la répudiation. La loi romaine autorisait, y compris la femme, de pouvoir partir. Ce qui fait que donc le mariage supposait la politique du divorce, le divorcium. Ce divorce était plutôt rare au début de la République. Mais ils se multiplièrent à la fin de celle-ci et donc sous l'Empire. Le mariage pouvait être rompu sans formalité, par consentement mutuel ou par la volonté d'un seul. C'était alors la répudiation. La formule usitée était alors « tuas res tibi abeto », qu'on peut traduire par « prends tes affaires ». Mais dans ce cas, l'initiative ne pouvait venir de l'épouse que si elle était mariée sine manu, du moins jusqu'à la fin de la République. En fait, le problème du divorce était délicat, parce que pour un mari, répudier son épouse supposait qu'il perde aussi les biens que celle-ci avait amenés au moment du mariage. Donc évidemment, il fallait éventuellement y réfléchir à deux fois. Mais progressivement, l'habitude du divorce ayant été prise, les autorités impériales, en particulier sous Auguste, ont cru bon de légiférer pour essayer de renforcer les liens du mariage qui devaient eux-mêmes renforcer une natalité jugée assez insuffisante dans l'aristocratie romaine. Bien entendu, à l'époque de l'Empire chrétien, les empereurs ont essayé de lutter contre le divorce avant que l'Église reprenne cette disposition progressivement au cours du Moyen Âge. Mais la question du mariage chrétien est une longue histoire sur laquelle nous pourrons un jour revenir.